Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En quittant Carcassonne, par la Nationale 113, en direction de Toulouse, traversant ce qui n'est plus aujourd'hui qu'une banlieue, vous apercevrez peut-être les ruines d'un moulin qui appartenait autrefois au domaine de Cucurnis. L'aménagement de la Nationale et la réalisation d'une rocade ont, depuis plus de 30 ans, coupé en deux ce qui était avant un vaste domaine agricole, aujourd'hui envahi par des enseignes commerciales, des lotissements et des bâtisses de toutes sortes. En 1981, alors que s'annonçait la rocade qui marquait la fin du domaine de Cucurnis et l'expropriation de ses derniers exploitants, André Duboucher se rendait sur place pour la série « Promenades ethnologiques en France ». Avec lui, les ethnologues Daniel Fabre, Louis Assier et l'historien Jean Blanc, représentant de la dernière famille à avoir vécu de ces terres, déroulaient, de son origine à sa fin, l'histoire de ce domaine qui portait encore le nom de celui qui en devint le maître au début du XVIIIe siècle. Promenades ethnologiques en France, le domaine de Cucurnis dans l'Aude, une émission diffusée la première fois le 11 août 1981 sur France Culture.
Promenades ethnologiques en France. Cucurnis, histoire du domaine. Louis Assier, Jean Blanc, Daniel Fabre et André Duboucher.
Un domaine. Ici, à Cucurnis, on a autrefois dit « horte ». Je reviendrai sur ce mot. Le domaine, c'est l'ensemble des biens ruraux où se trouve la maison du maître, Dominus. Les racines et les racines des mots sont profondes ici. Le domaine où nous sommes accueillis vient de tomber sous le coup d'une expropriation. Et c'est à la maisonnée, la maison de Cucurnis, envisagée à la fois dans son acception de bien immeuble, inamovible, et de lignage ayant ses prolongements dans une très longue durée, que s'attache ici depuis un an l'étude ethnologique entreprise par Louis Assier en collaboration avec le dernier descendant des Cucurnis. À une unité vivante, à la fois lieu maintenu et organisme en mouvance dans le temps, dont la continuité depuis 300 ans par-delà les ruptures est attestée par un ensemble de documents écrits dont la conservation est exceptionnelle. La rupture à venir a toute chance cependant d'être la dernière. Une autoroute, une rocade plus exactement, coupant le domaine en deux, en rendra bientôt l'exploitation impossible. Mais ce lieu, horte au sens originel, ce lieu encore inchangé, n'est plus du tout le même. Les ancêtres ne s'y reconnaîtraient pas. D'abord les vignes. Étendue à l'infini des vignobles plantés il y a une cinquantaine d'années seulement, sur l'emplacement de grands jardins maraîchers qui approvisionnaient autrefois le marché de la place aux herbes de Carcassonne. Vignobles avant-coureurs d'une banlieue en pleine campagne. Nous sommes à quelques kilomètres de Carcassonne, et la ville basse, à son tour, a avancé. C'est à quelques centaines de mètres seulement, depuis 5 ou 10 ans, moins de 10 ans, un lotissement d'immeubles gris à façades en biseau qui a surgi dans les vignobles, du coup sans horizon. La rocade suivra.
Si on part de celui qui a acheté la campagne ici, Pierre Cucurnis, donc, qui a acheté en 1724, et qui a épousé Marie Santoun, de Carcassonne d'ailleurs, de la paroisse Saint-Michel, exactement. Ensuite, parmi les enfants qu'ils ont eus, Esprit Cucurnis.
Il a succédé.
Qui a succédé, donc. Et qui épouse Antoinette Gieul, originaire du village de Ventenac.
Ici, à Cucurnis, Le rôle des femmes dans la transmission du lieu ayant été plusieurs fois décisif, le nom des maîtres a changé. Celui des prédécesseurs devenant lieu dit.
C'est le nom de la maison finalement qui désigne plus véritablement les individus qui y habitent que le patronyme. Le patronyme a changé trois fois, mais Cucurnis
est
toujours resté.
Voilà, c'est ça. Dont les Blancs donc, apparaissent en 1842, et ils y sont depuis. Quoi.
Jean Blanc, dernier descendant avec son cousin, des propriétaires actuels du domaine, aujourd'hui dénommé Domaine de Cucurnis.
Épouse Mathilde Bonafous, en 1869, originaire de Saint-Denis, la Montagne Noire. Là aussi, à 15-18 km d'ici, à peu près.
On raconte l'habitant de la maison tient l'histoire de la maison à la main. C'est un arbre généalogique. Récapitulation du chemin de mémoire et de ses étapes. Un arbre généalogique, c'est un chemin aussi bien qu'un arbre. Et un arbre, en effet, et même plusieurs arbres. Maison accompagnée d'arbres. Signe de la durée qui déborde le temps humain et à laquelle le temps humain momentanément se sera accordé.
En fait, quand mon grand-père a planté un cyprès, il s'est fait très critiquer, parce que généralement, on n'en voyait que dans les cimetières. Et lui, il les a mis dans la campagne comme on aurait mis d'autres arbres. Il y a quelques arbres qui ont été plantés à la naissance de certains enfants. Mais ça, se faisait partout, plus ou moins, quoi. Alors, il y a un cyprès qui a été planté en 1844, à la naissance de Jean Blanc, mon arrière-grand-père, mais il est mort maintenant. L'arbre est mort, mais il est toujours en place. Quoi. On en mettait un peu comme ça, quoi, pour commémorer les naissances. Quoi.
Vestiges précieux. Le four à pain. Quelques pierres rougies dans le mur.
Bon. Et bien. Alors ça, c'était l'ancien four à pain, ici. On l'appelle d'ailleurs toujours le four. Alors le four était derrière. Il y avait la coupole du four qui a été abattue. Exactement, je n'en sais rien. Voilà, là, il y a la trace, vous voyez, de la... Il ne reste que ça, quoi. C'est un vestige précieux.
Votre propre désir de devenir historien était lié à cette à l'histoire de Cucurnis, votre intérêt pour les papiers qui se trouvaient.
Oui, quand même, oui. Oui, c'est vrai, parce que je me suis intéressé tout en étant même au lycée. Ensuite, mes parents aimaient beaucoup l'histoire. Et moi aussi, disons, c'est lié, quand même, c'est lié. Je crois qu'on ne peut pas le dissocier tellement, quoi.
Il n'y a jamais eu de date sur les linteaux sur le...
Jamais. Je vous montrerai après les initiales. Il y a des initiales en fer forgé. Mais de date précise.
Les récentes qui ont été mises.
Les initiales sont de Pierre Jourdan, quand même. Il y a un P et un J. C'est-à-dire au 19e, quand même.
Mais il n'y a pas eu au 17e ou 18e de date ou d'initiale dans la pierre dans
Non, ça, on n'en a pas trouvé. C'est dommage, d'ailleurs. C'est bien dommage. Ça aurait complété les textes.
L'exploitation va donc disparaître. Lorsque la survie d'une communauté, même à l'échelle d'une famille, se trouve globalement mise en cause, et que le vif est sous des yeux vivants converti en trace, il y a appel à la conservation. Le dernier des Cucurnis est devenu historien. L'appel à l'histoire se révèle lié à l'imminence d'une destruction, et le vestige, conservé précieusement, aura valeur de signe apte à la transmission de la réalité compromise.
Cucurnis, pour nous, ça a démarré il y a environ un an maintenant, un peu plus.
Un
an et quelques mois. On était un petit groupe ici à Carcassonne, où on s'occupait d'organiser une exposition d'ethnologie sur la société viticole languedocienne. Et à cet effet, on était venu à Cucurnis demander, enfin à Jean et à ses parents, s'il n'y avait pas quelques outils, vieux outils, qui pourraient être intéressants à exposer. On a parlé de la maison, on a parlé de son histoire. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette histoire était très profonde et on avait conservé dans la maison tous les actes qui concernaient l'exploitation, les mariages, les mutations, depuis 1699.
C'est ça, oui.
C'est ça. Alors, de là, et puis au cours de conversations aussi avec Firmin Blanc, le père de Jean, sa mère, son oncle, etc., on a évoqué assez souvent l'histoire de Cucurnis et son actualité, puisque ici, le désir d'histoire ou la tentation de regarder tous ces écrits, de les évoquer, est venu et a été un peu suscité, accentué, par la décision administrative de faire passer tout d'abord une autoroute, et puis ensuite ça s'est transformé en un simple projet de rocade, enfin simple, qui est déjà dramatique pour Cucurnis, en plein milieu de l'exploitation. Ce qui fait que, à plus ou moins court terme, l'exploitation de Cucurnis va disparaître. Il ne restera plus que la maison. Alors on a décidé d'écrire sur 3 siècles d'histoire, d'écrire avec les habitants de Cucurnis aujourd'hui, d'ailleurs la famille Blanc, essayer de voir comment en 3 siècles on avait pu avoir la fondation d'une unité sociale, ce qu'on appelle en jargon anthropologique une unité domestique, et comment cette unité domestique arrive à achèvement après 3 siècles d'existence où elle a véritablement correspondu à la vie d'une famille, mais c'est pas la famille au sens du code civil, c'est une famille qui a eu 3 patronymes, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui sont repartis, mais c'est toujours la même lignée qu'on retrouve.
Du fait de la construction de cette rocade qui va détruire le domaine, les habitants de la maison ont ressenti de leur côté l'urgence d'établir cette histoire qui risque d'être...
Mon père, surtout, oui. C'est mon père, surtout, qui a été sensibilisé par ça. Parce que c'est lui qui a recueilli tous ces documents à la suite de son grand-père. Et c'est lui qui me les a transmis. On les a tous rassemblés parce qu'ils étaient plus ou moins isolés dans toute la maison. Alors il y en a qui étaient au grenier, d'autres dans la chambre de ma grand-mère. Ensuite dans des tiroirs, des buffets, etc. On les a collationnés, on les a triés, on les a rassemblés. De 599 à nos jours, il n'y a pas de trou.
Une stabilité qui d'ailleurs est passée à travers des fluctuations assez importantes, puisque bon, il y a eu quand même 3 moments où le problème successoral s'est posé. Enfin, oui. Il y a eu trois moments où c'est une fille qui a hérité, il a fallu agendrer quelqu'un.
Oui.
Et ça, à chaque fois, ça s'est bien passé. Il y a eu 3 phases aussi,
oui, c'est vrai,
trois phases économiques. C'était un petit jardin au départ, même une ferme de métayers. C'est devenu ensuite une propriété.
Mais ça a conservé le nom de jardin.
Oui, c'est vrai, oui, toujours. Même que ce soit planté en vigne, il y a toujours la dénomination d'origine, jardin.
Et la plantation en vigne est récente, dites-vous, relativement.
1926, 28, 30, ça se fait évolutivement.
Auparavant, les jardins, c'était des jardins maraîchers où
c'est
l'on
ça, c'était
des...
un jardin maraîcher où on cultivait tous les légumes de la région. Quoi. C'était très varié.
Que l'on écoulait en ville.
Que l'on écoulait en ville, sur le marché, la place aux herbes. C'est ma grand-mère, notamment, qui allait vendre sur le marché. Je me souviens qu'elle prenait la chaufferette l'hiver pour se chauffer.
Elle était installée,
elle avait sa place fixe. Ma grand-mère était originaire de Pénoutier, un petit village à 5 km d'ici. Donc il y avait des liens affectifs qui nous reliaient au village. Mais ce lien qu'il y avait avec la ville, c'était le lien économique, l'écoulement des produits, l'achat des produits nécessaires à la maison, bien sûr, et ensuite le lien religieux. Parce qu'on allait à la messe. Ici, ils allaient à la messe tous les jours, à Saint-Vincent, à la messe de 6h le matin. Été comme hiver, ça, ma grand-mère me l'a eu dit. Et bien souvent, ils partaient à pied. Et ils revenaient, et ça, tous les jours.
Jusqu'à l'époque de votre mère.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ensuite, il y a eu une paroisse qui s'est faite dans le quartier en 1949-50. Alors là, donc, nous allons à la paroisse du Sacré-Cœur, qui est la plus proche, quoi. Sinon, c'était aussi un lien avec la ville, par le fait. On rencontrait les gens de la ville, là. On devait rencontrer ses clientes du marché, on devait les retrouver à la messe le matin.
Il est sûr que les mariages, par exemple, se faisaient plutôt en direction des villages.
C'est ça, oui.
Les fréquentations.
Bien qu'à une certaine période, les blancs sont issus de la ville basse, les blancs. Ah. C'était des boulangers de Carcassonne. Mais ensuite, alors, ils provenaient de Ventenac, Ladigne d'Amont, Pénotier, Montredon, Mackens.
Saint-Denis.
C'est-à-dire Saint-Denis aussi, oui. Des petits villages pas très loin d'ici, tout compte fait. En même temps que le jardin, il y avait des céréales, notamment le blé, l'avoine pour les chevaux, l'orge aussi. Alors à une période, le blé cultivé sur le domaine, on allait le moudre au moulin que vous avez vu en arrivant. La farine revenait ici pour être cuite dans le four qui est en face. C'était le cercle fermé, quoi. L'autarcie par le fait.
Il y avait d'ailleurs tout un cercle de moulins par là.
Oui, c'est ça, moulins avant, moulins en haut. En allant vers la ville, c'était surtout des moulins avant. Tandis que vers Pénautier, là, le moulin de Rosy, notamment, c'est un moulin en haut sur le Fresquet.
Et alors, les moulins, justement, dans l'histoire de Cucurny, c'est quelque chose de très important.
C'est important.
J'ai l'impression que ça commence avec un moulin et puis ça finit aussi avec un moulin.
Oui, voilà, parce que tristement, mes ancêtres, dont les Cucurnys, qui sont originaires de Provence, d'Aubagne exactement, étaient venus en Languedoc, donc, à Brousse, dans la Montagne Noire. Ils étaient venus travailler un moulin à papier, le moulin à papier des Penautiers. Et ensuite, donc, ils sont venus donc, ici à Cucurnys au début du XVIIIe siècle. Et ensuite, les moulins se retrouvent avec les Blancs, parce que les Blancs étaient meuniers, et notamment au moulin de Rousille, à côté de Pénautier. Donc les moulins, on les retrouve à plusieurs moments de l'histoire de la famille.
Et puis il y avait, je crois même, un des membres de la famille qui avait été gérant.
Voilà, alors les Blancs, justement, qui a... sont partis de Rousille vers 1848 pour aller au moulin du Bazac à Toulouse. Et là, ils ont fait faillite. C'était un moulin trop vaste pour eux, certainement. Et...
Ouais. Justement, ce moulin de Rousille, aujourd'hui...
Et ben là, évidemment, il est complètement ruiné. Bon, il y a très longtemps qu'il n'est plus dans la famille. Les gens qui l'ont possédé ne s'en sont pas occupés. Il est tombé en ruine, donc il a été pillé. On a pris les mangeoires des chevaux, etc., les linteaux des portes, il ne reste plus rien. Et maintenant, de nouveau, ils viennent de se vendre.
Mais ton père avait quand même gardé l'habitude d'y aller s'y promener.
Mon père y allait souvent, parce qu'évidemment, c'était des souvenirs précieux pour lui. Parce que mon arrière-grand-père y est né, aussi, en 1844. Il y a encore la cheminée où on le langeait, proche du foyer. Et mon père, lorsqu'il y va, ou lorsqu'il y allait, il se remémorait ces images. Quoi. En plus, on avait conservé ici les langes de l'arrière-grand-père, que ma grand-mère, malheureusement, a brûlé il y a 4 ou 5 ans.
Et aujourd'hui, Rosy, c'est quoi?
C'est une ruine, envahie par la végétation. Ouais. Même ensuite, ils ont dévié le cours du Fresquet. Donc, ils ont enlevé tout son cadre au moulin, parce qu'avant, il y avait le béal. L'eau qui passait avait des systèmes de vannes, etc. Et maintenant, l'eau n'y passe plus dessous. Ça fait que ce n'est plus rien, c'est mort. Il n'y a que les meules en place, jusqu'à ce que quelqu'un les prenne.
Décidé bien avant ce projet de construction de rocade de renoncer à l'exploitation.
Oui, oui. C'est-à-dire que ce n'était plus viable, parce qu'ici, quand c'est petit, ça fait 12 hectares, et déjà, il y a mon oncle et mon père qui travaillent à deux, donc pour deux familles, c'est juste. Bon, ensuite, mon oncle a eu un fils, mon cousin, donc, en l'occurrence, qui est parti, lui, dans l'enseignement. Mon père m'a vivement conseillé d'en faire autant, enfin de partir, parce que ce n'était plus rentable. Quoi.
D'autant que ton père avait été assez troublé par l'autoritarisme de ton grand-père,
qui l'avait contraint à
quitter l'école où il faisait d'excellentes études.
Pour demeurer au domaine.
Pour venir au domaine. C'est assez troublant d'ailleurs. Hein. Il faudra qu'on s'y attarde.
Ça se comprend un peu, parce que c'était rentable à l'époque.
Oui. Ah oui, ça.
Et il y avait la sécurité de la terre, la possession du bien.
Mais il avait quand même deux fils, il aurait pu en libérer.
Alors que les instituteurs, les avocats, tout ça, vous avez une belle situation, mais ils n'avaient rien. Là, au contraire, vous voyez la sécurité du bien au soleil, quoi, la possession des terres. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, avec le nombre d'hectos qu'on faisait à Cucurnys, on avait une situation équivalente à celle d'un médecin ou d'un avocat de la ville basse.
Oui, puisque c'était entre les deux guerres, là. Ton père a pris la succession.
Et oui, voilà. Oui,
vers 1927
25.
Oui. Toi, une période de prospérité.
D'où ensuite le développement du vignoble, vu que ça marchait bien, ça se vendait, etc. Donc pourquoi ne pas rester?
Et mon oncle, qui est plus jeune, son père lui a dit aussi, reste avec nous. Pour continuer, là, d'ailleurs, mon grand-père tenait beaucoup aussi à la succession mâle. Quand je suis né, par exemple, le nom ne se perdra pas. En plus, il y avait mon cousin déjà, donc mâle, moi, garçon, alors là, c'était très bien. Le nom de blanc allait se continuer. Se perpétuer, quoi.
Ce qui explique aussi l'attachement au papier et aux signes
de la descendance. Tout est lié. Parce qu'en plus, c'est un milieu assez conservateur ici. Les Blancs ont toujours été, un conservatisme politique assez, assez accentué, notamment avec mon arrière-grand-père.
Pourtant, il y a eu une époque où il y avait deux tendances assez opposées. Deux tendances
parce que la famille de ma grand-mère, politiquement, s'est située à gauche. Mais ensuite, ils ont vécu ensemble ici, il n'y a pas de problème, même, tout en conservant, bien sûr, leurs idées bien arrêtées, quand même, au point de vue.
Ah oui, il y avait des débats autour de la table.
Bon, évidemment, je crois que tu pourrais parler de cette photo qui présente une coupe dans la vie de Cucurnis qui est particulièrement intéressante.
Oui, parce qu'il y a une photo, cette photo date à peu près 1912. Alors ça, c'est mon arrière-grand-père, Jean Blanc. Ça, c'est mon père. Mon père enfant, où il avait 3 ans à peu près. Donc il est né en 9, donc ce qui date la photo de 1912 à peu près. Ça, c'est sa marraine de Pénotier. C'était une institutrice de Pénotier qui était attachée à la famille. Ça, c'est ma grand-mère, donc la mère de mon père. Ça, c'est mon grand-père. Et ça, ce sont les parents de ma grand-mère. Et c'est lui qui était à gauche et lui à droite. Bien souvent, ça faisait des discussions assez animées, mais enfin...
Ils étaient aussi cultivateurs.
Ils étaient cultivateurs à Pénotier, oui. Seulement, lorsque ma grand-mère est venue ici en 1908, lorsqu'elle s'est mariée, et ensuite, elle a fait venir ses parents. Ou plutôt, c'est mon grand-père qui a fait venir ses beaux-parents ici. Ça fait que pour venir ici, il y avait du travail. Étant un jardin, il y avait beaucoup de travail à faire. Un problème de main-d'œuvre qui se posait. Et ils sont venus ici et ils ont vécu ici tous ensemble.
Mais là, on a une situation qui est assez fantastique au point de vue des stratégies successorales, enfin, qui sont le problème fondamental de Cucurnis depuis le début jusqu'à la fin. Comment garder les terres ensemble, voire les augmenter.
C'est ça, c'était surtout
Et là, la solution qui a été trouvée est assez originale. C'est-à-dire que le grand-père a baillé à ferme, a donné en fermage à son fils les terres. Son fils n'avait qu'un enfant qui était encore en assez bas âge, a demandé à son beau-père, qui lui venait assez récemment d'acquérir un bien de village à Pénotier, mais qui auparavant avait été ouvrier dans quelques...
Charpentier aussi.
Ouvrier, charpentier, il avait fait un peu tous les métiers, 13 métiers, 14 misères, et d'après ce que tu m'as dit, je crois qu'il avait eu quelques déboires en raison de ses opinions.
De ses idées politiques, oui.
C'était l'homme de gauche.
L'homme de gauche qui était bon dans la région,
qui était assez mal vu,
qui s'était fait renvoyer quelquefois des domaines où il travaillait. Et là, il lui a conseillé de vendre le bien de village qu'il venait d'acquérir, qu'il avait acquis, parce qu'il s'était engendré dans la maison de sa femme. C'est-à-dire que c'est le père de sa femme qui lui avait laissé sa propriété.
C'est bien de village, oui.
C'est bien de village, mais qui était dispersé, qui n'était pas très commode à cultiver. Alors quand son gendre lui a proposé de venir travailler à Cucurnis, manifestement, ça lui a plu. Et alors là, on a vraiment une famille, on ne peut plus élargir.
Il est placé à l'extrémité. Il n'est pas dans la partie centrale du groupe qui pose pour la photographie.
Il est passé par la périphérie, par les positions généalogiques les plus marginales.
Mais c'est la position qu'il occupe dans la
photo.
Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il a l'air beaucoup plus d'être l'ouvrier que celui-ci. Ouais. Alors là, on a une famille incroyablement élargie, où il y a aussi la sœur de...
C'est ça, de ma grand-mère.
La sœur de ta grand-mère, qui est elle aussi venue.
Qui est venue de Pénotier aussi, oui.
Les deux parents ici, un couple parental, le couple des deux filles, le père, le fils, et puis l'institutrice qui est la marraine.
Voilà, c'est ça.
Et l'ouvrier, mais qui est resté très longtemps.
Une dizaine d'années, oui. Plus d'une dizaine d'années.
Qui faisait quasiment partie de la famille.
De la famille, bien sûr.
C'était le seul ouvrier?
Non, il y en avait d'autres. Seulement, il y en avait un qui logeait ici. Proche de l'écurie pour surveiller les chevaux la nuit au cas où l'un se détacherait pour éviter qu'il se batte, etc. Parce qu'il y avait 3 chevaux à l'époque, d'où aussi main d'œuvre importante.
Sur la photo de 1910 ou 12, une photographie de la maisonnée, la disposition du groupe familial auquel les collatéraux sont venus s'adjoindre répond exactement à l'élargissement de la maison, ultérieurement flanquée d'une aile construite pour les loger, telle que nous l'avons aperçue dehors. Horte. L'Horte de Cucurnis. Premier nom du domaine. Vieux mot de souche enraciné dans le lieu. L'Horte. Latin hortus. Et le lieu de ces vastes jardins maraîchers proches de la rivière et antérieurs aux vignes. Les jardins se réduisent aujourd'hui à un potager de belles proportions. Les vignes, à leur tour, vont disparaître. Mais la réserve est loin encore de tirer à sa fin. Nombre de bouteilles sont alignées en évidence sur le buffet de la cuisine. Horte, mot provençal. Et mot du vieux français aussi. On est venu à signifier le lieu. Le lieu par excellence en allemand. Das Ort, et en haut allemand déjà. De la maison, lorsqu'à son tour elle aura disparu, subsistera encore ce lieu dit.
Ce vin blanc, c'est,
c'est du vin naturel, alors. C'est du vin de messe, oui, parce qu'on le cède au prêtre pour dire la messe. On paie encore la dîme à l'église. Chaque année, on fournit 50 litres aux prêtres pour qu'ils lisent la messe. Parce que c'est un vin naturel qui ne comporte aucun produit étranger. J'en ai ici, je pourrais vous le faire goûter tout à l'heure si vous voulez. C'est du grenache, 14 degrés, 14,5.
On va essayer de le mériter.
Justement, à part cette...
Et alors, il ne comporte aucune addition, ni bitumé sulfite, ni rien, parce que les droits canons interdisent de dire la messe avec du vin trafiqué.
Et oui, bien sûr. Oui.
Justement, à part cet aspect viticole de la chose, je crois que le calendrier liturgique est très important à la maison.
Oui, très important.
Il rythme une grande partie de votre...
On le retrouve souvent, dans les actes, notamment la Toussaint. C'est la date des baux de fermage, etc. L'installation des gens, on le voyait dans les campagnes avoisinantes. Alors à la Toussaint, on voyait les charrettes passer avec les meubles. On disait un tel change de ferme ou de propriété, il va dans une autre. Mais souvent, il faisait que 500 mètres, il allait d'une ferme à une autre.
On appelait ça, en occitan, on dit comment ? Muda, non ?
La mudo.
La mudo, oui.
Voilà, c'est ça, la mudo. Le déménagement, voilà, la mudo, voilà, c'est ça. Ensuite, le calendrier liturgique, bien sûr. Le jour des rameaux, très important. Ce jour-là, on ramassait le buis, l'olivier. On avait planté un petit olivier uniquement pour le jour des rameaux, pour aller faire bénir cet olivier. Alors l'olivier, on le mettrait
où
dans la cuisine.
Était... Il n'y est plus.
Il y est toujours encore. Il en reste quelques vestiges. Alors l'olivier, c'était les chambres et la cuisine. Et ensuite, le laurier, c'était pour la basse-cour, l'écurie, la cave et les vignes. Chaque vigne avait son rameau de laurier pour protéger la vigne contre la grêle, contre... les orages, etc.
Et qui le fait, ça ?
Ça, c'était ma grand-mère qui le faisait. C'était elle qui en avait le monopole. Avec moi, elle me prenait, tout petit déjà, elle me prenait dans les vignes portées pour que je repère les endroits. Quand seras plus grande, bah feras-tu.
Quand tu seras plus grande, tu le feras.
Et alors, ensuite, moi, j'ai repris la tradition. Je le fais encore, je l'ai fait cette année. Quoi.
Parce que c'est dans un endroit bien précis de la vigne.
Oui, alors généralement, c'est un coin de vigne. Le coin est situé vers l'est. Et si possible, dans un arbre, pour que le vent n'emporte pas le rameau, qu'on retrouvait généralement l'année suivante. Alors, ne pas jeter les rameaux l'année suivante. Ma grand-mère prenait un panier, je me souviens. Deux paniers, même. Un panier avec le rameau frais, et un panier avec les rameaux secs. Et dès qu'on arrivait, on le brûlait de suite. Il ne fallait pas le jeter. Le cierge de la chandeleur. On ramenait le cierge béni à la maison. Alors, il servait là pour les morts, et pour les orages aussi. Lorsqu'il faisait orage, ma grand-mère invoquait Sainte-Barbe, bien sûr, contre la grêle. Contre
elle avait une formule, elle avait une...
Elle avait des formules, oui, mais là, elle les récitait en patois, et là, elle ne me les disait pas.
Ah oui, oui.
Elle les récitait tout bas.
Oui. C'était secret ?
C'était secret, pour elle, c'était secret, oui, c'était elle qui le disait. Elle devait me l'apprendre, elle ne me l'a jamais appris. Et ensuite, alors, on allumait un cierge en même temps pour les orages, comme fait d'ailleurs toujours, ma mère a pris la relève, quoi. On allume le cierge de la chandeleur, d'ailleurs, toujours. Ouais, c'est toujours le même. Ça, c'était important pour moi. Dès qu'il... Parce que ma grand-mère était sourde à la fin. Alors, dès qu'elle voyait que le ciel se couvrait, trône pas ce pichou par hasard. Est-ce qu'il ne trône pas ou qu'il ne tourne pas? Ouais. Et s'il tournait, il fallait que je le lui dise pour que de suite elle allume le cierge. Dès qu'il allumait.
Ouais. Ah, c'est elle avait gardé quand même.
C'est elle qui l'allumait, oui. Ouais. Alors, ça remonte au 18e. À un défunt, on avait dû couper un doigt.
vu qu'on a conservé dans la famille pendant très longtemps un pouce dans du formol et un bocal. Et ce bocal était situé dans la cuisine, là où nous sommes, sur des laisses qu'il y avait contre ce mur, derrière des chaudrons. Enfin, mon père l'a eu vu aussi. Et alors, moi, ça m'aurait intéressé de le retrouver, ce pouce, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Si on l'a perdu ou si ma grand-mère l'a jeté, ça je sais.
À vous écouter, il me semble qu'il y ait un travail de mémoire très intensif que vous ayez
fait.
Parce qu'au fond, vous avez grandi ici, passé toute votre vie, et tout ce que vous dites existait en vous à l'état diffus, à l'état latent, sans que vous ayez jamais songé à le raconter. Et c'est depuis la menace, l'éventualité de la disparition du domaine que vous avez
qu'on a fait un effort aussi mémoire. Pour récupérer, pour garder, pour conserver tout ce qu'on nous a dit, quoi. Autant à mon père qu'à moi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais malade, étant jeune, ma grand-mère venait me garder. Et c'est là qu'elle me racontait toutes les histoires. Autant les histoires de Pénautier que d'ici. Les fêtes religieuses, ça, c'est elle qui m'a tout laissé. Bien souvent. Lorsque j'étais malade, c'est elle qui me le racontait.
Pour en revenir au culte des morts, Jean, hier tu m'as dit avoir été, hier, bon, c'était le jour des morts, tu m'as dit avoir été te recueillir et
réciter
les prières au cimetière de Gougins, qui est abandonné depuis le 18e siècle.
Depuis la Révolution française.
Depuis la Révolution.
Oui,
est-ce que tu le fais chaque année?
Pas chaque année, non, mais je l'ai eu fait d'autres fois. Hier, j'ai décidé d'y aller, oui. Parce qu'en effet, c'est au cimetière de Gougins que sont enterrés tous nos ancêtres. Je les trouve là dès 1705. Jusqu'à la Révolution française. Et un d'entre eux, Pierre Cucurnis, celui qui a acheté le domaine ici en 1724, est enterré dans l'église. Parce qu'il était premier marguillier de la paroisse. Il s'occupait des revenus de l'église, de la chapelle. Et il avait eu honneur à être enterré dans l'église. Et j'ai retrouvé le récit de sa sépulture. Avec l'assistance des diacres, sous-diacres, etc. Qui ont fait l'honneur de la sépulture chrétienne dans l'église. Malheureusement, et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que la chapelle a été transformée en salle à manger. On a percé les murs, mais enfin, on voit la voûte encore. Mais enfin, ça n'a rien à voir. J'étais beaucoup déçu. Je n'y reviens plus d'ailleurs à l'intérieur. J'ai retrouvé l'ancien chemin, je crois l'avoir retrouvé. L'ancien chemin qui reliait Cucurnis à Gougins. Il y a des lambeaux encore. Et hier, je l'ai emprunté, cet ancien chemin, en allant au cimetière de Gougins. Et mon père, lorsqu'il y va, l'emprunte aussi.
Il passe dans des vignes.
Voilà, ça, ce sont des vieux chemins, des vestiges de vieux chemins. On pense que c'est les tracés anciens, quoi. Toujours utilisés alors, par des gens qui vont exploiter des vignes. Alors là, on se remémore évidemment nos ancêtres allant à la messe à Gougins.
Cimetière, terre démembrée, ravinée, vestiges humains ponctuant la terre du bien au soleil, emportés par les eaux. Vestiges qui parlent sans être des mots, comme le doigt d'homme si longtemps conservé dans un bocal sur une étagère et dont la grand-mère parlait au petit enfant jadis. Le nom transmis est celui d'un chemin également. Un chemin à suivre jusqu'à disparition du chemin.
Les femmes, quand même, participaient très étroitement aux travaux. Elles ne se cantonnaient pas à la cheminée ou à la cuisine. Ma grand-mère allait très souvent travailler dehors.
Et dans le cas de ta grand-tante, tu m'as même dit qu'elle travaillait comme un homme.
Voilà, c'est ça.
Elle faisait à la fois les travaux intérieurs.
Surtout pendant les guerres.
Domestique et à l'extérieur, elle travaillait comme un homme.
Pendant la Seconde Guerre, notamment, la sœur de ma grand-mère travaillait dehors comme un homme, oui. Elle sulfatait, elle irriguait le jardin, enfin, etc. Alors que ma grand-mère, quand même, avait un rôle spécifique. Elle allait des fois cueillir les légumes dehors, mais surtout, elle les vendait. Et ensuite, elle s'occupait du dedans.
Et c'était elle, la gardienne du feu?
Et c'était elle ensuite, venant de plus en plus âgée, et travaillant moins dehors, C'est elle alors qui s'occupait de l'entretien du feu, bien sûr.
Le feu brûlait toute la journée?
Ah oui, en hiver, même, oui, dès l'automne, il brûlait toute la journée jusqu'au printemps.
Oui.
Alors ensuite, c'était elle qui s'occupait de chauffer les lits. S'occupant du feu, elle s'occupait de chauffer les lits. Alors, on chauffe le lit avec un moine. Et la chaufferette, ensuite, il fallait trier la braise pour qu'au moins il n'y ait pas un charbon qui fume. Très dangereux, un charbon qui aurait fumé.
Mais ça, ta mère le fait toujours?
Ça, ma mère le fait, d'accord. Mais quand ma grand-mère s'en occupait, c'était elle qui préparait la chaufferette.
La cuisine était la seule pièce chauffée.
Voilà, c'est ça. Comme de nos jours, d'ailleurs. C'est la seule pièce chauffée. Donc, le feu, primordial, bien sûr. Et il ne fallait pas qu'il s'éteigne.
Le feu, c'est l'affaire des femmes. Mais elles ne sont pas là. La famille, qui nous a accueillis cordialement, n'a pas voulu être présente. Parole a été déléguée à qui aura compétence de parler en son nom. Nous sommes, porteurs de micro, ethnologues, historiens, assis près du feu autour de la table de la cuisine, seule pièce chauffée de la maison. Une parole peut-elle être déléguée? Mais pourquoi parlerait-on quand la personne face à soi, pourvue d'un micro, n'est pas celle à qui réellement on s'adresse? Nous, la radio, sommes venus ici en quête d'une information. Introduisons le vide. Par l'autoroute même qui détruit Cucurnis. La porte s'est ouverte, elle s'est en même temps fermée. Comment ne pas être, pour une part, du côté de ceux qui auront tenu, en s'absentant, à manifester une présence que le registre de l'information est inapte à traduire et qu'il n'est du reste pas de son ressort de traduire.
Vos parents n'auraient pas du tout envie de venir parler?
Non, ils n'y tiennent pas en fait. Hein. Là, je leur ai demandé, ils n'y tiennent pas quoi. Oh, j'ai pas voulu le...
Ah non, bien sûr.
Ça, j'ai pas voulu le forcer. Hein? Non, là, je...
Tu parles pour toute la lumière qui garnit. Non, je pensais au feu que vous allumiez, c'était la femme qui avait habituellement...
Ah oui, c'est ça, oui, c'est ma grand-mère. Oui, les femmes, oui, c'est ça. Le feu, c'est l'affaire des femmes. Je me souviens encore d'éveiller ici. Il n'y avait pas la télé, la radio, on n'allumait pas souvent. Alors, autour du feu, là, on parlait, quoi. Dès qu'il y avait beaucoup d'étincelles, je pensais que ça annonçait soit des visites, soit des nouvelles qui seraient parvenues dans la famille. C'est comme les bulles que faisaient les bouteilles de vin. 3 bulles dans la bouteille, une nouvelle pour la famille.
Bonne ou mauvaise?
Bonne, généralement. Bon, autant que je me souvienne, c'était de bonnes nouvelles.
Et ce vin, d'ailleurs, là, que nous avons bu, qui l'a préparé?
Alors, évidemment, c'est ma grand-mère aussi, mais surtout sa sœur, ma grand-tante, qui s'occupait du vin de noix. Alors là, je me souviens y avoir participé. On ramassait les noix vertes pour la Saint-Jean. Alors c'est une fête qui se mêle aux activités. On allait au noyer, on ramassait les noix. Ensuite, ces noix, on les partageait en 4 pour qu'elles rentrent bien dans le goulot de la bonbonne où il y avait du 3,6. Alcool à 85-90 degrés. Et là, on laissait macérer ces noix vertes dans le 3,6 pendant un temps assez long. Et ensuite, on filtrait, on le mêlait à du vin blanc, le macabeu généralement, vu qu'à cette époque-là, on ne faisait pas de grenache encore. Le macabeu qui est un vin très sec, très madérisé, et qui convient bien à ce genre de vin ensuite. Et après, on laissait vieillir dans les flûtes de chêne, puis on mettait en bouteille. Hein. On laissait vieillir 10 ans, 15 ans. Quand on les oubliait pas, des fois.
Et ce vin était bu en quelles occasions?
Alors, lorsqu'on reçoit du monde, lorsqu'on reçoit du monde, ou qu'on en reçoit toujours.
Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, par exemple. Ou bien alors, la Noël, Pâques, tout simple, peut-être aussi, le 15 août, des fêtes. Quoi. Lorsqu'on se réunit en famille, alors. Lorsqu'on se réunit en famille, on prend ses bouteilles. Je me souviens, moi, lorsqu'on ouvre une bouteille à Pâques ou à Noël, qu'on est tous rassemblés, On se remémore à peu près l'année où ça a été fait. Et comment on le faisait.
Et la personne aussi.
Et la personne qui l'a fait vite. Là, généralement, c'était la même.
Oui, c'est ta grand-tante qui a fait.
Ça, c'est ma grand-tante. Ma grand-mère l'aidait plus ou moins, mais c'était quand même surtout ma grand-tante qui s'en occupait. Elle faisait le vin de noix. Elle est morte, elle, il y a 5 ans. Alors, elle faisait le vin de noix, le quinquina. Ensuite, alors, on faisait du vin d'orage. Il y avait des écorces d'orage qu'on faisait sécher dans la cheminée. Et qu'on coupait menu et qu'on faisait tremper dans l'alcool aussi. Et toujours avec le macabeu. Vin d'orage, donc quinquina, vin de noix, et ensuite les liqueurs. Liqueur de verveine, avec la verveine cueillie dans le jardin. C'est ma grand-tante aussi qui s'en occupait de ça. Toujours pareil, on faisait sécher les feuilles de verveine, puis on les faisait macérer avec l'alcool. Ensuite, liqueur de prunelle. On allait ramasser les petites prunelles sur les buissons noirs. Puis ensuite, liqueur plus récente, la liqueur des îles. Liqueur des îles avec du lait, du miel, je crois, et des fruits. Ça, c'est ma mère qui a pris la relève. Et ma marraine.
Et elle continue là,
faire tout ça. De temps en temps, on en fait, oui. Moins maintenant, quand même, moins. Parce qu'on a des réserves, il faut dire aussi. Alors... Les femmes ont joué un rôle très important, quasiment dès l'origine, vu que par deux fois elles ont transmis l'héritage. Ça, évidemment, c'est grâce à cette transmission que les terres ne se sont pas démembrées.
Et Cucurnice a survécu au changement de patronyme.
Cucurnice existe encore de nos jours, tel qu'on peut le voir. Et qui n'a pas changé, évidemment, de nom. Bon, en 1799, ça ne s'appelait pas l'Horte de Cucurnice, évidemment, ça s'appelait l'Horte du Cousin, Del Cousy en occitan. Pourquoi ce nom, je ne sais rien non plus. Ça appartenait à un dénommé Rivals, qu'il a vendu, donc, ensuite, en 1724, à Cucurnice.
Et l'ancêtre, alors.
L'ancêtre, Pierre Cucurnice.
Et à partir de quel moment le domaine prend le nom de Cucurnice?
Eh bien, dès cette année-là, dès l'achat, quoi.
Après,
on ne parle plus de l'Horte du Cousy, on n'en parle plus. C'est l'Horte de Cucurnice, ou Cucurnice avec un L.
Et puis le mot Horte est tombé.
Et ensuite, le mot Horte est tombé, c'est devenu Cucurnice, tout court. Quoi. 1773, là, c'est vraiment le jardin, il n'y a pas de vigne. Ouais. Peut-être une vigne pour ça, pour la consommation familiale et le fourrage pour les bêtes, bien sûr.
Oui, c'est l'époque des manufactures drapières, enfin, en Carcassonne, une certaine expansion.
Parce que là, j'ai les compois cabalistes. Pour le XVIIIe siècle.
C'est-à-dire la liste
des chevaux, des bêtes de somme.
Des bêtes de somme.
Alors là, j'ai retrouvé, il y avait deux mulets, un cheval, enfin, etc. Et ensuite, autre phase importante, vers 1850. Ou alors, là, on trouve le domaine tel qu'on le voit de nos jours.
Et tel qu'il
la
est.
La cuisine, sur... tel qu'il est en ce moment, c'est 1850, à peu près, parce qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de texte, en fait, c'est curieux. Mais on pense, on suppose que c'est vers cette année-là.
Il se dédouble ensuite un peu plus tard, la maison
habite ton oncle. Ah oui, mon oncle, c'est beaucoup plus récent. Mon oncle, c'est 20e siècle, alors, 1920, pas la 30, quoi, quand il s'est marié. Quoi.
Et alors là, 1850, c'est l'état du domaine tel,
tel qu'on le voit aujourd'hui.
Et dans le travail de Louis Hercier ici, à quoi vous êtes-vous attaché particulièrement?
Ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir un organisme qui a vécu, qui a constitué une unité de certains individus qui se sont reproduits sur un territoire jusqu'à nos jours. C'est-à-dire de voir comment cette continuité était passée par plusieurs phases d'abord, plusieurs phases économiques, d'artisans, de métayers, comment les Cucurnices ont réussi à faire souche, d'artisans migrants sont devenus des propriétaires horticulteurs. Ensuite, comment l'exploitation a prospéré, comment elle s'est agrandie. Comment au début de ce siècle, c'était véritablement, Cucurnice, c'était un domaine riche, et l'arrière-grand-père d'ailleurs ne travaillait pas.
C'est ça, il n'a jamais travaillé.
Il n'a jamais travaillé de sa vie.
Il n'a jamais travaillé, non. Mon arrière-grand-père n'a jamais travaillé, il faisait travailler les autres.
Et ensuite, on passe dans la phase de la viticulture.
Son fils, mon grand-père, travaillait, mais prenait pas mal quand même de loisirs. Il allait à la pêche, au Puy-Valadour, maintenant n'existait pas, non. Les Puy-Valadour, tout ça existait. Alors là, il prenait 4-5 jours. Ensuite, bon, quand il revenait, il reprenait la directive des travaux et il y participait. Ouais. Tandis que mon père et mon oncle, alors, eux, sont rivés ici.
Sont redevenus des paysans.
C'est voilà, ça. C'est ça.
Ouais. Au moment où le domaine va disparaître.
Voilà.
Voilà.
Il y a une continuité. Et la continuité, évidemment, on ne la voit pas dans les rapports économiques, on ne la voit pas non plus dans les systèmes de travail. Il y a eu une évolution technologique très sensible, notamment au niveau... Dès qu'on a commencé à installer des vignes, les Blancs ont été les premiers à avoir
un tracteur
sur la commune de Carcassonne.
Oui, c'est ça.
Ils étaient des innovateurs au point de vue technologique. Il y a énormément de mutations dans cette histoire,
dans
l'histoire économique du domaine.
C'est la continuité.
Mais dans la mentalité, c'est la continuité, c'est comme ça. Tu dis.
Il n'y a pas de...
Le fait que... Et ça, on le sent énormément au niveau, on pourrait dire, des rites, des rituels
propitiatoires
que tu évoquais tout à l'heure. Le doigt de l'ancêtre conservé, les langes énormément tardé à brûler. Ton père qui est atteint, et il me le disait encore hier soir, ça l'a incroyablement troublé, ça l'a atteint plus profond de lui-même, de savoir que le moulin de Rouzy, où il allait encore se promener, bien qu'il ne lui appartienne plus, avait été tout récemment vendu pour une bouchée de pain à un commerçant qui fait partie de la, disons, de la nouvelle élite économique locale, qui va en faire des cours de tennis. C'est aussi là son univers symbolique, si vous voulez, est atteint. Avec la rocade, c'était le domaine, évidemment, l'exploitation, c'est... Mais là, on atteint le passé, on atteint la mémoire.
C'est ça.
On a l'impression que dans le fonctionnement même de la lignée de ce système très patriarcal, on a l'impression que le système, petit à petit, s'est spécialisé au point qu'à un moment donné, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'est plus capable de s'adapter. C'est-à-dire, et notamment l'intransigeance de ton grand-père à vouloir que à la fois ton père et ton oncle demeurent au domaine et prennent en charge l'exploitation, c'est un peu à la source des déboires d'aujourd'hui.
Et oui, disons que sa démarche se comprenait très bien. Il faut tenir compte du contexte précis dans lequel il a pris cette décision.
C'est la prospérité viticole, c'est la spécialisation.
Mais le déboire d'aujourd'hui, c'est purement et simplement la destruction du domaine. Il n'est pas question de...
Il y avait un problème déjà de difficulté au point de vue viticole, qui était important.
C'est ça, on s'insère dans la crise globale de la viticulture.
C'est la monoculture. Si cette monoculture est frappée économiquement, le domaine s'en ressent. Ça aussi, on le ressentait très fort.
Et c'est sûrement encore plus difficile.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils nous ont conseillé à nous de partir. Donc, déjà, plus ou moins, c'était voué à la fin, vu qu'il n'y aurait pas de continuité.
Et c'est encore plus difficile d'assumer la crise en système d'indivision. L'abondance de main-d'œuvre, comme on peut la constater dans cette photo, où il y a... Au début du siècle, il y avait 11 personnes autour de cette table.
Et
les 11 personnes étaient employées au jardin, il y avait toujours du travail. Mais l'abondance de main-d'œuvre de nos jours dans la viticulture n'est plus nécessaire. Elle est extrêmement mécanisée. Et il est certain qu'un seul ménage sur cette exploitation s'en tirerait mieux que deux.
Que deux, bien sûr, c'est sûr.
Alors, en somme, le domaine disparaissait, qu'il y ait une rocade ou pas.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Mais alors, la rocade est venue, je crois, a eu quand même un rôle, je pense, très important, dans la mesure où il est en plus démembré, c'est-à-dire le territoire,
éclate complètement. Oui. Partagée en deux, comme si on bâtissait un mur. La rocade, on ne peut pas la traverser, etc. Et ça devient alors totalement inexploitable, bien entendu. Le terrain qu'ils prennent, et de par la séparation qu'ils imposent. Donc ce n'est plus possible, absolument pas. C'est sûr.
Et la maison, vous comptez la conserver ?
Ah, la maison, oui, on compte la conserver, oui, sûr.
Et vous comptez même la remettre dans l'état
qu'elle
avait au XVIIe
siècle ? Si possible, oui, l'aménager.
C'est-à-dire rétablir l'état d'origine. Cette grande salle du
rez-de-chaussée. Cette grande salle basse que les réparations de 1850 ont fragmentée.
En espérant que la proximité de cette route de grand passage, qui est un lieu comme nul, comme nous le disions, ne la rende pas inhabitable.
Inhabitable, on ne peut pas le savoir.
À défaut de la parole de ceux qui, devant notre intrusion, ont choisi, pour défendre leur intimité, de ne pas être là, nous nous étions proposé un instant d'aller plus loin, sur le pourtour du domaine de Cucurnis, à Pénautier, par exemple, où des alliances avaient été nouées, et d'y surprendre, si possible, une parole non prévenue, non frayée. Parole du pourtour, parole de la rencontre accidentelle, parole de ce centre qui ne finit pas de se dérober. Mais pourquoi insister? C'est à juste titre qu'elle se dérobe.
Je me demandais si, à défaut de ceux qui n'ont pas voulu être là, et j'ai senti cela comme une abstention très volontaire, est-ce que, à votre avis, il y aurait une possibilité d'aller, par exemple, à Pénautier et d'avoir à bâton rompu des conversations avec des gens du pourtour ?
Oui, c'est possible.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un là-bas ?
Oui, je connais certaines
est-ce
personnes.
Est-ce qu'on pourrait se recommander de vous ?
Écoutez, oui, pourquoi pas.
Est-ce qu'éventuellement, vous auriez un moment pour nous y accompagner?
Là, cet après-midi, ça risque d'être... Quelle heure est-il? Ça risque d'être assez difficile. Mais j'ai envie d'y travailler, enfin de l'étudier. Parce que Penautier, vous avez un château.
Oui, c'est le fameux château de Père Vidal.
Oui, enfin, là, qui a été... Là, c'est les ruines, mais enfin, vous avez un splendide château qui date du XVIIe siècle. Et... Bon, les contes de Penautier ont eu une influence assez considérable dans toute cette partie de la région. Et on trouve dans Penautier, où le maire et la plupart des conseillers municipaux sont de gauche, on trouve ce mélange de tradition, mais de tradition exacerbée, enfin... de modernité qui est liée au développement des cultes laïques du XIXe siècle. Et l'association est assez curieuse, parce qu'il y a, une certaine complémentarité entre les deux façons de penser. Culte laïque, oui, je pense au développement de la laïcité en Languedoc au XIXe. Bon, Languedoc, qui était blanc au début du XIXe siècle, est devenu petit à petit le Languedoc rouge qu'on connaît aujourd'hui. Et ce Languedoc rouge a produit ses façons de penser, ses rituels, pour justement contrecarrer la plupart des rituels religieux, enterrements civils, etc. Et avec... une profusion de gestes, de signes assez intéressante.
Alors ce serait peut-être intéressant d'aller là et pour avoir quelques échos de ce que vous appeliez cette parole authentique.
Du moment qu'on a décidé d'effectuer ce travail sur Cucurnis, avec l'accord, et peut-être un petit peu suscité, les Blancs ont peut-être un petit peu, pas mal même suscité ce travail. Bon, ils nous ont un peu délégué à Jean et à moi, enfin délégué à moi, Jean possède la compétence de parler au nom de sa famille par nature. Et du moment qu'on a décidé de schématiser, d'écrire, de fixer
mais
un discours sur
Cucurnis,
ils nous ont délégué cette parole. Évidemment, bon...
Je crois, encore une fois, la parole ne se délègue pas, et écrire n'est pas nécessairement schématiser.
Ah si, bien sûr, oui, on rationalise, on va essayer d'expliquer, c'est en tant qu'ethnologue, c'est un peu
oui,
un travail
d'écrire
et expliquer.
Vous expliquez et vous aboutissez à d'autres explications à donner, on élargit aussi le champ de l'inexpliqué.
Le travail de l'ethnologue, c'est toujours de dépasser le sens commun pour apporter une explication englobante.
Englobante, mais qui n'arrive pas nécessairement à faire le tour complet des choses envisagées. Donc le mouvement n'est pas nécessairement un mouvement de rationalisation. Et ce que j'ai aimé dans ce discours de quelqu'un qui était manifestement compétent, c'était ces éclairs, qui étaient précisément des éclairs de quelqu'un qui n'était pas entièrement engagé dans la rationalisation, dans l'explication, et qui était plutôt de l'ordre de l'intime.
Oui, bien sûr, la subjectivité sera toujours présente dans
c'est le
tout au long
de
notre travail.
Oui.
Oui, c'est le ressort, c'est le moteur de notre tentative. On part toujours de la parole subjective. Et il y a évidemment, même dans nos conversations avec Jean, il y a toujours deux langages possibles. Soit le rapport de deux chercheurs qui travaillent ensemble sur une matière objectivée, et puis aussi le discours. Quand j'ai fait ma thèse sur les Pyrénées catalanes, bon, je l'ai faite là-haut parce que j'y avais vécu, j'avais vécu un petit moment quand j'étais enfant et c'était un domaine que je connaissais déjà, où des amis ont des maisons, j'avais des facilités de logement. Enfin, il y a toujours une logistique, si vous voulez,
qui nous appartient. On travaille dans notre milieu, dans notre environnement.
Vous travaillez tout. C'est ça.
On ne peut pas se permettre cette politique de la terre brûlée, où un ethnologue se parachute dans une communauté et travaille, évidemment, pénètre tous les secrets, toute l'intimité d'un groupe humain, ensuite produit un très beau travail qui n'oublie rien de la vérité.
Mais qui récuse tous les liens qui ont pu être noués dans le cours de son travail.
C'est cela, qui ne produit qu'un travail d'ethnologue et pas un travail d'individu responsable.
C'est ça. Vous travaillez donc dans un terrain qui est celui de votre milieu, de votre vie, mais cela aboutit du fait de transformer ce domaine vécu en un objet d'étude. Vous parliez tout à l'heure d'un double discours, oui. D'un discours objectif, qui se différencie du discours subjectif qui est venu pour vous en premier lieu.
Oui, on a toujours les deux registres à notre disposition. Et aussi bien, mettons Jean, puisqu'on évoque le travail que nous faisons en ce moment tous les deux, aussi bien lui que moi.
Et quand vous dites à votre disposition, ce n'est peut-être pas toujours aussi aisé. Ce sont deux registres qui parfois se contrarient.
Ah bien sûr, oui, là les...
Mais quand nous avons, dans le cours de ces propos, évoqué cet autre registre, vous m'avez dit que vous trouviez ce propos un peu difficile, la conscience du registre intime.
Oui, bien sûr, parce que vous prenez le chercheur qui a l'habitude, peut-être, de présenter les choses. Une fois qu'il les a bien cernées, qu'il les a bien repérées, et qu'il a l'habitude de les présenter d'une façon... tout à fait net et clair et sans problème, là vous le prenez à contre-pied.
Oui.
C'est évident. Puisque là, c'est les conditions même de la production d'une recherche que vous évoquez.
Qui sont des conditions qui sont de ce fait un peu renversées.
Qui sont renversées. Puis d'autant que dans le cas de Cucurnis, l'approche que nous essayons d'avoir est très complexe au départ. Les conditions que nous sommes imposées finalement sont assez délicates. Vous avez quelqu'un qui est le fils de la maison, qui est un des deux derniers descendants de ces Cucurnis, appelons-les Cucurnis pour simplifier, et qui est en même temps historien, qui donc a l'habitude de considérer un objet historique en tant qu'objet, justement. Et puis de l'autre côté, un ethnologue qui habite à un kilomètre de là, qui connaît donc très bien le milieu, Et qui, lui, va apporter au niveau de la parole, au niveau de l'enquête orale, au niveau de l'investigation, dans des lignes qui sont définies par les problématiques, disons, classiques de l'ethnologie en tant que science, qui va apporter un appareil d'objectivation également. Mmh. Alors, aussi bien l'un que l'autre, on a toujours des démarches... Assez complexe.
Vous avez deux types de discours, donc, qui s'entrecroisent et qui aboutissent peut-être à deux résultats différents dans votre recherche, parce que vous parliez à la fois d'un mouvement d'objectivation et de rationalisation, et d'autre part, d'une recherche qui devrait déboucher sur ce que vous appeliez l'esprit du domaine, c'est-à-dire une dimension qui échappe tant soit peu au discours.
Oui, c'est certain. C'est certain. C'est au moins ce qu'on peut supposer pour l'instant, dès qu'on confronte continuité et rupture, dès qu'on confronte la permanence et les changements. Il faut un lien à tout ça. Et le seul lien, pour l'instant, appelons-le esprit, appelons-le sacra, comme ça s'est vu chez certains littérateurs du 19e siècle, justement. Je suis tombé l'autre jour sur un livre qui a été écrit par un juriste australien, au 19e siècle, qui s'interrogeait sur les maisonnées. Les maisonnées qui sont cette association d'une maison, d'une terre et d'une famille, qui est véritablement un modèle d'organisation sociale dans la civilisation rurale européenne, qui s'interrogeait sur ce modèle dans l'histoire, et qui disait véritablement tout se passe pour supprimer l'héritage, et il n'y a qu'une seule chose qui assure le lien de tous ces éléments, il n'y a qu'une chose, c'est, il appelait ça sacra. Et le sacra, bon, c'est tout cet univers de mythes, de traditions orales, d'investigation de sens dans certains objets, comme on disait tout à l'heure, les langes, le doigt, etc. Mmh. Ce pouvoir symbolique des ancêtres disparus, qui se conjugue avec l'autorité du père, cette espèce de politique interne de la maisonnée, pour définir une continuité.
Et au fond, les deux registres de permanence s'étageaient sur ces documents, d'une part des documents écrits, d'autre part sur des objets, comme ceux dont vous venez de parler, des langes, un doigt.
C'est ça. Mais ces objets n'existent pas si on n'en parle pas.
Oui, mais ce ne sont pas pour autant des écrits.
Bien sûr, on a la chance, bon là, de pouvoir travailler sur un énorme corpus de textes. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste. Il y a la parole, il y a le discours.
Promenades ethnologiques en France. Cucurnis, histoire du domaine. Louis Assier, Jean Blanc, Daniel Fabre et André Dubouchet. Collaboration artistique, Serge Libert, Claude Massé, Albert Morin.
Cette émission a été diffusée la première fois le 11 août 1981 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.